Pour être super honnête avec vous, c'est pas un exercice que j'aime beaucoup. J'admire les gens qui prêchent tous les dimanches, qui ont toujours quelque chose à dire. C'est parce que parler, c'est aussi se livrer. On parle pas forcément, je vais pas vous faire le programme télé. Puis je me suis dit, quand Mathieu m'a proposé l'exercice, j'avais plutôt envie de dire non. Mais c'était plutôt que j'avais envie de me cacher, puis je me suis dit, tiens, je vais pas le faire. Puis je me suis souvenu que, même si j'ai l'impression que, de pas avoir grand chose à dire, que Dieu avait parlé à Balaam à travers un âne. Et la question c'est, je vois un peu plus qu'un âne, et puis j'ai peut-être des choses à vous dire. Alors la question c'est, que je me suis dit, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir leur raconter? Et il y a des choses qui me parlent des fois, et quand je regarde chacun d'entre vous, je me suis dit que chacun avait des talents. Alors j'ai envie de vous parler de vos talents, et puis peut-être de la transformation qu'il faut pour arriver au talent. Vous savez, quand on est chrétien, c'est pas, on ne devient pas chrétien et on ne change pas d'avis, on change de vie. Et la question de changer de vie, c'est aussi de se laisser transformer par Dieu. Alors, pourquoi, et puis, pourquoi il faut être transformé? Quel Dieu, quel plan Dieu a pour nous? Le plan de Dieu, ce n'est pas que je devienne quelqu'un d'autre. C'est pour que je devienne ce que je dois être, qui je dois être. C'est peut-être plus important que de se dire, tiens, je vais être comme Olivier. J'aimerais beaucoup avoir les talents d'Olivier. Mais en même temps, ce n'est pas ce que Dieu me demande. Je ne mesure pas 1m95. Et en même temps, Dieu, en me regardant, il sait ce qu'il veut. Il savait, entre guillemets, lorsqu'il m'a vu la première fois, dès ma conception, qui j'étais, ce que j'étais. Et des fois, on peut se dire, ouais, mais moi, je n'ai pas de talent, je n'ai pas ça. Et on a souvent le regard de Dieu. Moi, je dis souvent que j'aimerais avoir les yeux de Dieu, pas pour voir ce qui est mauvais entre chacun d'entre vous. Souvent, on voit les gens, on les voit par leurs défauts, mais par leurs qualités. C'est un peu le regard prophétique, de voir pas ce qu'on est à l'instant T, mais qui on peut devenir. Un exemple biblique, c'est Pierre. Vous vous souvenez, le passage où on dit où Jésus donne à Pierre l'église, tout ça. Mais faut être un peu cinglé entre nous. Si on n'a pas, si on juge la personne à l'instant T, Dieu, Jésus, savait très bien à l'instant T que Pierre allait le renier. Que Pierre, entre guillemets, il n'était pas qualifié à ce moment-là. Que Pierre, entre guillemets, il était faible, il était un peu colérique. Mais Dieu voyait au-delà de ça. Dieu vous regarde pas à l'instant T, pas avec ce que vous êtes maintenant, même si, entre guillemets, vous avez énormément de qualités, de talents. Il regarde aussi ce que vous pouvez donner aux autres, ce que vous pouvez devenir. C'est le côté un peu prophétique aussi de la transformation. Vous savez, quand on pense qu'on n'a pas le profil, c'est peut-être là où on se dit que finalement on peut entre guillemets, agir en nous. Jésus, il nous voit actuellement comme on est, comme père, comme mère, comme ami. Il voit aussi les talents que vous possédez. Il voit aussi ce que vous exercez, quel ministère, ce que vous pouvez apporter. Peut-être que vous avez un ministère pour parler devant 5000 personnes, et peut-être que vous avez un ministère pour parler devant 2 personnes. Et ces 2 personnes, eh ben, ils vont être touchés. Vous savez, on pense toujours que les meilleurs orateurs, ce sont ceux qui parlent devant plein de gens. Mais des fois, il y a des gens qui vont parler devant 5000 personnes une fois, ils vont toucher 5 personnes. Et il y a des gens qui vont parler devant 5 personnes 1000 fois, qui vont en toucher 500. Ce n'est pas la quantité et ce qu'on pense, ce qu'on aimerait, mais c'est plutôt ce qu'on va faire. Vous savez, des fois, quand on a des grands ministères, on a un petit peu d'orgueil qui arrive. Un exemple tout bête, je reprends Pierre. Alors lui, il a eu le melon comme il faut. Hein. Vous vous rendez compte? Jésus lui donne l'église, tout ça. Et puis il y a un moment où les gardes viennent le saisir. Et puis qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Non, non, te laisse pas attraper, machin. Et puis il dit à Jésus ce qu'il doit faire. Jésus lui file son église, il lui file tout, alors il respecte, et puis après il va donner des ordres à Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dit, regarde-moi, Satan. Il dit, en gros, il n'avait pas changé d'avis, il savait très bien ce qui allait se passer. Et c'est juste l'orgueil que Pierre a pu avoir à ce moment-là. C'était le plan de Dieu. Dieu le savait. Et ce qui est important aussi pour trouver nos talents, c'est qu'on lui donne carte blanche. Donc carte blanche, c'est le point de départ dans ma vie pour être transformé. Vous savez, quand il y a ce qu'on appelle la rencontre avec Jésus. Alors là, c'est quand on est chamboulé. On a tous connu ça. En tout cas, si vous ne l'avez pas connu, vraiment, je vous invite à le vouloir. Et puis après, dans la carte blanche, c'est ce qu'on va devenir. Il y a un exemple aussi que j'aime bien, en préparant ce message, c'est le jeune homme riche. Qu'est-ce que vous pensez du jeune homme riche? Est-ce qu'il était honnête? La Bible dit, à l'instant où il est venu voir Jésus, qu'il voulait vraiment donner sa vie à Dieu. Alors c'est toujours ce qui loupait, entre guillemets, ce qu'on veut devenir. Mais il voulait vraiment donner sa vie à Dieu. Il a respecté les commandements, il n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a rien fait. Pour lui, sa vie était bonne. Et est-ce qu'il était honnête au plus profond de lui, à votre avis? Allez, on va faire un vote. Qui est-ce qui pense qu'il était honnête au moment où il le disait? Qui est-ce qui pense qu'il était malhonnête? Jésus dit, c'est marqué, Jésus l'aima. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'à l'instant T, il était un peu hypocrite en disant « Ouais, je te donne tout, mais enfin, pas vraiment tout. » Si la Bible dit « Jésus l'aima », ça veut dire qu'il était honnête, mais il n'a pas laissé la carte blanche. Il n'a pas voulu vendre ses biens. Pour vos talents, c'est à peu près la même chose. C'est que vous pouvez dire « Oui, je vais te servir, Seigneur, en fonction de vos talents. » Mais pas de vous dire, mais se dire « Ouais, mais ça, je peux pas, et puis ça, bah non, ça va tuer ma soirée, et puis non, ça, oh non, ça, je peux pas non plus. » On a toujours plein d'excuses, plein de bonnes raisons. Mais on n'entre pas dans notre destinée. Vous savez, pour nos talents, on a toujours envie d'être le meilleur. C'est pas ce que Dieu nous demande. Hein. Dieu veut qu'on soit la meilleure version de nous-mêmes. Pas être quelqu'un d'autre. Être la meilleure version de nous-mêmes. On n'est pas tous appelés à suivre. On n'a pas tous la même course. On a notre course à nous. Mais par contre, on a le même but. C'est une grosse nuance. C'est qu'on pense qu'en courant plus vite que notre voisin, on va être meilleur. Non, on risque de prendre une place qui n'est pas la nôtre. C'est toute la difficulté. C'est de savoir qui on est, ce que Dieu nous demande, et d'être la meilleure version de nous-mêmes. Vous savez, dans ce qu'on est, il y a le potentiel. On a tous un potentiel, et puis des fois on est un peu réfractaire à utiliser notre potentiel. Dans Jérémie, il y a le potier qui reprend et qui refait son vase. Mais c'est la même chose avec nous. Des fois, la matière est là. Chacun a sa matière. L'instant n'est pas le bon. Et puis Jésus veut faire de nous un beau vase. Et puis des fois, nous, on n'est pas dans l'acceptation de ce que Dieu veut nous faire maintenant. Et puis le vase, il n'est pas beau. Alors qu'est-ce qu'il fait, le potier? Il recommence. Il ne change pas l'argile. C'est pas ce qu'il fait. Il reprend la même matière. Il attend juste que la matière soit plus malléable. Et est-ce qu'on est vraiment, dans nos talents, on a des choses innées. Il y a aussi du travail. Vous savez, dans ce qu'on est, Jésus nous a fait. Notre personnalité, changer de vie, accepter Dieu, être transformé, c'est pas être, être un autre. C'est la personnalité, c'est pas le caractère. La personnalité, c'est ce qu'on est. Moi, je suis quelqu'un d'assez joyeux. Et malgré les épreuves, même si je peux subir les choses, je reste joyeux. C'est Jésus qui a voulu que je sois joyeux. Il y a des gens qui sont introvertis, extravertis. Il y a des gens qui sont... Mais tout ça, entre guillemets, ces qualités qu'on pourrait croire que c'est des faux, ça fait partie de notre personnalité. Notre caractère, c'est autre chose. C'est ce qui vient des choses de la vie. On ne naît pas méfiant. On devient méfiant. Et tout ce qu'on est, entre guillemets, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui a voulu la couleur de mes yeux, ma taille, mon poids. Dieu vous a donné vos cheveux. Pour certains, il les a repris. Mais en même temps, Dieu vous connaît. Et Dieu vous a voulu comme ça. Alors vous savez, dans les talents, il y en a plein des talents. On a toujours envie d'avoir le talent qu'on n'a pas. C'est comme pour les intelligences. On dit qu'il y a 9 intelligences. Les intelligences, c'est aussi les talents. Vous savez, on parle de l'intelligence, il y a les maths, il y a les langues. Il y a aussi dans les intelligences la conscience des autres. Il y a des gens qui aimeraient parler, et en fin de compte, ce n'est pas leur talent. Et moi, j'admire certaines personnes dans l'église qui sont capables d'aller dans la rue, et puis parce qu'elles ont conscience des autres. Leur talent aussi, c'est d'aller parler, d'avoir les mots qui touchent. D'autres personnes, ben, c'est se sentir, entre guillemets, qu'il faut parler à d'autres. Pour d'autres, c'est la musique. La musique, c'est un talent, mais en même temps, le talent ne nous dispense pas du travail. Il y a des gens qui sont talentueux au milieu de vous, mais est-ce que vous travaillez votre talent? C'est Olivier vous dira que, vous voyez, on croit que c'est facile quand on le voit. Hein. Je peux vous dire qu'il y a du travail derrière. Parce que même s'il y a du talent, s'il n'y a pas de travail, et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu va vous demander d'exercer votre talent et d'avancer, de pas avoir peur d'exercer votre talent. Vous avez le droit de vous planter. Vous avez le droit de faire des erreurs. Mais par contre, vous n'avez pas le droit de renoncer. Et dans vos talents, entre guillemets, il y a des moments où ça va aller vite. C'est comme pour la marche chrétienne. Vous avez Ésaïe 50, je crois que c'est Ésaïe 50, je l'ai noté, et Ésaïe 40. Et c'est un peu comme dans notre vie chrétienne. Ésaïe 40, 31, ils disent, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent, ne se fatiguent pas, ils marchent mais ne s'épuisent pas. Et dans notre vie, dans nos talents, c'est la même chose. Il y a des moments, quelquefois, on va voler comme des aigles. Alors ça veut dire, on va faire un truc, tout va couler, ça va être facile. Un aigle, ça plane, vous voyez ? Imaginez. Et puis après, d'autres fois, ça va être plus compliqué. On va courir. Mais courir, des fois, on s'essouffle. Et puis des fois, on va marcher. Mais on est toujours dans le mouvement. On est toujours dans faire avancer nos talents. Et moi, dans ce que je voulais vraiment vous dire, c'est quel talent vous avez ? Comment vous l'utilisez ? Qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que vous laissez Jésus vous transformer pour pouvoir utiliser ce que Dieu a mis en vous ? J'ai des fois de la peine en me disant « Ah, ça, c'est dommage, parce qu'on n'essaye pas d'avancer. » Moi, je sais qu'on parle souvent de l'esprit de comparaison. Et on aimerait vraiment des fois avoir un esprit de comparaison, envie de tuer cet esprit de comparaison. Parce que faut mettre juste à l'esprit que vous ne serez jamais votre voisin. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre voisin ne sera jamais comme vous. Et c'est ce qui fait qu'on est unique et qu'on est une communauté. Et c'est aussi ce qui fait qu'on avance ensemble, en fonction de nos talents, en fonction des besoins des uns et des autres. Voilà. Maintenant, si j'arrive au bout, si vous avez vraiment à cœur d'exercer votre talent, si vous avez vraiment envie, même peut-être de le découvrir, ben je pense que c'est à vous de travailler maintenant dessus. Allez voir aussi Olivier, Matt, l'équipe. Il y a des gens aussi qui pourront peut-être aussi vous aider. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire.
Amen. Amen, amen. Merci Yannick. La deuxième personne qui va nous rejoindre, c'est quelqu'un de plus discret, quelqu'un de plus calme, mais qui justement agit dans l'ombre. Pas forcément sous les projecteurs, hein, mais qui a plein de talents aussi. D'une gentillesse et d'une douceur incroyables. Au petit soin, elle sera, si bobo ou autre, il y a. Je vous laisse deviner pourquoi. Courageuse et audacieuse, je vous demande d'applaudir Stéphanie.
Bonjour à tous. Alors, moi, en fait, ce matin, je vais vous parler de plein de petits témoignages, en fait, qui m'ont donné espoir dans le découragement. Donc voilà, donc en fait, depuis quelques temps, j'ai des soucis de santé qui ont fait que petit à petit, je me suis vraiment découragée et j'ai vraiment perdu espoir dans plein de domaines de ma vie, sachant que l'espoir, si on le définit, c'est vraiment attendre quelque chose que l'on désire avec confiance, et avec confiance, ça signifie sans crainte. Et j'avoue que les choses que j'attends aujourd'hui, il y a beaucoup de crainte dans mon cœur. Alors, c'est des exemples tout bêtes, mais qui sont pour moi hyper importants. Par exemple, moi, je rêve d'acheter une maison. Et avec mes soucis de santé, je me dis, mais c'est impossible. Jamais je pourrais acheter ma maison. D'exercer mon travail sans souffrir. De m'occuper de ma maison, de mes enfants. Et tout simplement de réaliser mes rêves. Et excusez-moi, je tremble un petit peu. Et donc, en fait, en lisant des messages, en écoutant des messages, il y a beaucoup de choses qui m'ont encouragée et dont un verset qu'on retrouve dans Proverbe, j'ai perdu la référence, qui dit qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Et un autre verset qu'on trouve dans Hébreux 10, verset 23, « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » En fait, ce n'est pas une pensée positive où je vais me réveiller tous les matins, où je vais dire « il y a de l'espoir, il y a de l'espoir ». C'est vraiment une promesse que Dieu me fait. Et Dieu, c'est celui qui est mort, qui est ressuscité et qui est fidèle. Donc, il y a de l'espoir pour mon avenir. Et j'y crois vraiment. Voilà. Et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi une situation, un problème financier, un conflit avec un conjoint, une addiction sur laquelle on n'arrive pas à se débarrasser, avec ses enfants, avec une situation au travail, il y a de l'espoir dans là où ça s'éteint, en fait. Après, il y a plusieurs questions que je me suis posées aussi, en fait. Je souffrais énormément. Et à ce moment-là, en fait, je me demandais, mais où est-ce qu'il était, Dieu ? Mais je me rappelle avoir dit, mais Seigneur, est-ce que tu sais ? Est-ce que tu comprends que ça fait mal ? Et j'en ai assez, en fait, de rester comme ça. Et donc, pareil, en fait, j'ai... Donc écoutez, voilà des choses qui m'ont encouragée. Et là, donc, je vais vous parler en fait de Jésus qui, à ce moment-là, en fait, il est à Capernaum. Il est à sa première année de ministère à peu près. Et il a déjà accompli de nombreux miracles. Et il y a beaucoup de gens déjà qui le suivaient. Et cette fois-là, en fait, ce jour-là, en fait, personne ne sait à chaque fois ce que Jésus allait faire. On ne sait pas où est-ce qu'il allait aller, on ne sait pas ce qu'il allait faire. Et ce jour-là, il décide d'aller à... Naïm, je ne sais pas comment on dit la ville, c'est à 30 km de marche de Capernaum. Alors pourquoi il a fait 30 km de marche ce jour-là ? Parce qu'en fait, il savait ce qui se passait. En fait, il y avait une femme qui était veuve, qui avait perdu son mari, et là, qui venait de perdre son fils. Et du coup, Jésus donc, a fait 30 km de marche pour aller là-bas, pour aller guérir son fils. Et là, je me suis dit, mais en fait, au travers de mes épreuves, bien sûr que Jésus me voit, il sait tout, parce que là, il savait que cette femme souffrait, il a vu et il a compris. On dit qu'il a été ému de compassion, et ému de compassion, c'est vraiment être pris au niveau des entrailles. Et Jésus, il est 100% Dieu, mais il est aussi 100% humain. Tout ce qu'on ressent, en fait, lui peut le ressentir. Donc voilà, ça m'a vraiment fortifié de sait tout, Dieu voit tout et Dieu comprend tout, et il a guéri son fils. Sachant que c'était une personne veuve, donc en tant qu'épouse, il n'y a plus personne. Et elle venait de perdre son fils. Et en tant que maman, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'espoir. Donc Dieu a vraiment redonné l'espoir là où il n'y avait plus d'espoir. Et aussi d'autres questions que je me posais à travers mes soins, mais je me disais, mais pourquoi ? Donc là, les pourquoi, je les ai laissés de côté parce que de toute façon, voilà. Mais je me dis, mais peut-être qu'il y a une attitude à avoir, un changement d'attitude. Et du coup, j'ai réfléchi et je pense vraiment, et pareil, j'ai écouté des choses et lu des choses qui étaient très intéressantes et qui disent, c'est vrai que, en fait, le déroulement de nos épreuves va aussi dépendre des décisions que l'on va prendre. Et je vais vous donner un exemple tout bête, mais en fait, moi, je suis passée par une épreuve qui a été vraiment longue pour moi. En fait, je trouvais pas... En fait, j'ai fait mon BTS et après, je devais vite travailler parce que j'avais fait un prêt étudiant et tout, c'était compliqué. Et j'ai trouvé du travail, mais j'ai trouvé un travail qui ne me plaisait pas. Et ça a duré vraiment longtemps. Et tout le temps, je me disais, mais j'en ai assez de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà. Mais pendant ces 4 années-là, au bout de la 2e année à peu près, il y avait vraiment quelque chose qui brûlait au fond de mon cœur. Et en fait, depuis tout le temps, je voulais travailler dans... J'ai toujours voulu travailler dans le médical. Mais en fait, je me mettais des barrières. Je me disais, mais j'ai pas le niveau en fait en mathématiques. J'ai pas le niveau en logique. Donc ça ne sert à rien que je me plonge là-dedans, mais ça restait vraiment au fond de mon cœur, et je me disais, et j'avais vraiment envie de passer mon concours infirmier. Et en fait, je me disais, ah non, les autres, parce qu'il y en a qui savaient que j'étais nulle en maths et que j'étais nulle en logique, je me suis dit, mais en fait, ils vont dire, mais ça va pas, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir réussir, pourquoi tu fais ça ? Et en fait, je me dis, mais au lieu de me concentrer sur ce que Dieu voulait pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai mon concours affirmé et Dieu a vraiment réalisé ce miracle dans ma vie, et bien, au lieu de lever les yeux vers Dieu pendant cette épreuve-là, en fait, j'ai préféré me préoccuper de ce que les autres allaient penser. Donc, je pense vraiment que notre attitude aussi dépend de l'épreuve, comment elle se déroule. Et un autre petit exemple aussi, donc on l'a vécu cette semaine avec Franck. Donc là, on s'était réunis mardi dernier pour une réunion de maison. Hein. Et en fait, donc Olivier est arrivé en premier et Franck en fait avait très mal au coude. Et Olivier a prié pour Franck. Et la première chose que Franck a faite juste après la prière, c'est aller prendre la glace dans le congélateur pour se la mettre au niveau du coude. Et je pense aussi que des fois, on ne s'attend pas au miraculeux de Dieu. Et que ça, ça peut faire vraiment durer nos épreuves aussi. Et du coup, pour le dernier point aussi que je voulais aborder, c'était qu'en fait, le fait de passer par des épreuves qui sont compliquées, ça permet à Dieu vraiment de se révéler encore plus. Et là, par exemple, le lendemain, le lendemain où Franck avait mal au coude, là, on était aux urgences à la clinique. Et je me rappelle avoir posé ma main sur l'épaule de Franck et j'ai dit « Mais je pense qu'on ne prie pas assez ». En fait, ce n'est pas une question de prier assez ou pas, c'est vraiment s'attendre à ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et vraiment, les épreuves, vraiment, ça permet aussi à Dieu de se révéler encore plus. Et je vais vous donner l'exemple de Lazare, en fait, l'histoire de Lazare. En fait, Marie et Marthe, donc, avaient un frère, Lazare, et Lazare était très malade. Et donc, elles avaient envoyé un message à Jésus pour qu'il puisse revenir, en fait, parce qu'elles connaissaient, elles savaient que Jésus pouvait guérir. Mais Jésus a décidé de rester encore 2 jours à l'endroit où il était. Une fois qu'il est arrivé, en fait, c'était trop tard, Lazare était mort. Ça faisait 4 jours qu'il était dans le tombeau. Et d'ailleurs, hein, Marthe lui dit, si tu avais été là avant, ça aurait été différent. Mais en fait, alors là, elle connaissait le Jésus qui guérit, mais elle ne connaissait pas le Jésus qui ressuscite. Et en fait, je pense que ça a permis vraiment à Jésus de se révéler aussi comme la personne qui ressuscite les choses. Donc, je pense vraiment que dans nos épreuves, n'importe quel que soit par où on passe, Dieu peut vraiment se révéler à nous et vraiment, il donne de la lumière là où on pense qu'il n'y en a plus. Et voilà, et donc du coup, ça m'encourage à cheminer encore malgré ce qui m'arrive. Mais voilà, et je suis très contente aussi de partager ces choses avec vous. Ce n'est pas facile pour moi de parler de moi et merci pour tous ceux qui prient pour moi. Et voilà.
Amen. Merci Stéphanie. Juste, avant que tu partes, je voulais. Je voulais pas prier pour elle, mais en fait, je voulais que Stéphanie prie pour nous. Mais après, on peut prier pour elle aussi, c'est bien, pour s'atteindre au miracle pour elle. Mais en fait, tiens, vas-y, viens là, parce que cette table n'est pas adaptée à toutes les morphologies. Non, mais dans un petit bout de femme, je peux vous promettre qu'il y a une vaillante guerrière. Et c'est vrai ce qu'a dit Samuel, que malgré, c'est vrai, la difficulté que Stéphanie, par laquelle elle peut passer, elle est toujours, c'est vrai, à se soucier de nous, des autres. Toujours, je reçois des petits messages, comment ça va, pourquoi je peux prier. Et il y a vraiment quelque chose qui bouillonne à l'intérieur d'elle, qui est vraiment extrêmement puissant. Voilà, et du coup juste je voulais, si tu es d'accord, que tu pries pour nous, parce que les armes, le combat que tu mènes pour toi aujourd'hui, eh ben, Dieu te donne des armes, Dieu te donne des clés dans le fait de trouver cet espoir en Dieu malgré les difficultés. Et parce que vous savez que les stratégies de l'ennemi, c'est toujours de nous faire croire qu'on est seul à expérimenter ce qu'on expérimente. On croit tout, ah mais les autres, s'ils pouvaient comprendre, moi je suis seul. Et c'est pas vrai, évidemment, on passe tous par des choses plus ou moins similaires, des phases plus ou moins similaires, et alors que Dieu vraiment te permet de cheminer, te permet d'avancer, j'avais vraiment envie que tu pries pour nous, pour que cet espoir, eh bien d'autres puissent aussi le recevoir, que dans ce qu'eux ils vivent aujourd'hui, dans ce qui est vraiment dur, et peut-être qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, eh bien, alors que tu déclares que prophétiquement il y ait cet espoir qui vienne dans le cœur des uns et des autres. Tu es d'accord ?
Bien Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence, ton amour, toutes les bénédictions que tu nous accordes et celles que tu as encore en réserve pour nous, pour chacun de nous. Seigneur, je voudrais te prier pour chacun vraiment qui passe par des épreuves, par des moments difficiles, que tu puisses, Seigneur, leur donner espoir et qu'ils puissent croire, Seigneur Jésus, que tu interviens et et tu es le Dieu qui peut tout, Seigneur, et avec toi tout est possible, Seigneur. Merci vraiment de bénir chacun des personnes ici, et merci pour cette unité aussi des uns et des autres, et je te prie vraiment pour qu'on puisse s'encourager aussi les uns les autres à prier pour chacun, Seigneur. Merci pour les responsables des églises, Seigneur. Merci vraiment de renouveler leur force, vraiment de les accompagner, Seigneur, dans tout ce qu'ils font pour nous, Seigneur. Amen.
Est-ce qu'on peut se lever et prier pour Stéphanie, s'il vous plaît, les amis? Elle a une maladie qui touche ses nerfs et son système nerveux et qui lui amène beaucoup de douleurs. Et voilà, comme Stéphanie nous l'a exhorté, il faut s'atteindre au miraculeux Dieu et le Dieu des miracles. Et voilà, on prie longtemps ensemble les uns pour les autres, mais ce matin encore, on veut prier pour toi, Stéphanie. Stéphanie, vraiment, on te remet entre les mains de Dieu une fois de plus. Et dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que toute douleur maintenant quitte ton corps. Je proclame que tes os reprennent leur bonne place, que le flux nerveux peut circuler normalement, Seigneur, que tout ton corps se détend, tous les organes prennent leur place naturelle, comme prévu par le Seigneur, et que maintenant tu es guéri, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que par tes meurtrissures, tu dis, nous sommes guéris, et nous le croyons, Seigneur, et nous croyons que nous allons avoir la victoire en ton nom, Seigneur. Merci Seigneur.
Nous élevons ton nom, Seigneur, et nous croyons que tu es le Dieu qui ressuscite encore aujourd'hui. Tu es le Dieu qui guérit aujourd'hui. Cette même puissance, Jésus, qui t'a ressuscité d'entre les morts, habite en Stéphanie. Et je veux déclarer que cette puissance agit en elle et la guérit de tous ses maux, Seigneur Jésus. Nous élevons ton nom et nous déclarons ta restauration dans sa santé, un rafraîchissement pour ses os, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen.